C'est un film au succès retentissant et surprenant de l'autre côté des Alpes où il est sorti. Plus de 5 millions d'Italiens se sont déjà rendus au cinéma pour le voir depuis sa sortie en octobre dernier. Il reste encore demain, c'est son titre, et le film arrive en France mercredi prochain. Un long métrage dont France Culture est partenaire qui décrypte les mécanismes de la société patriarcale, la violence exercée sur les femmes et leurs filles par leurs pères et leurs maris. Avec nous pour en parler ce matin, sa réalisatrice Paola Cortellesi. Et commençons cet échange par le début, le tout début du film. La scène liminaire, c'est une gifle puissante, retentissante que Delia, le personnage que vous incarnez, reçoit en plein visage. Alors pourquoi commencer votre film par ce geste-là?
Buongiorno a tutti, innanzitutto. A chi ci ascolta.
Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent avant toute chose.
Je voulais
que le sujet soit clair dès le début. Et donc j'ai imaginé, avant de commencer à écrire ce scénario, une claque en plein visage. Et puis, comme si rien ne s'était passé, une journée qui commence, qui continue comme ça, comme si rien ne s'était passé. Parce que la gravité de cette chose, c'est que des vies ont été vécues et le sont encore comme si rien ne s'était passé. C'était accepté à cette époque-là. Cette grosse claque en plein visage a deux choses. C'est l'argument, c'est le barra. Maintenant, on va parler de violence, de genre, etc. Non, je l'ai dit avec la première claque. Voilà, c'est fait, c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que d'une certaine manière, que ça soit un peu drôle et un peu c'est très grave, mais c'est aussi que ça soit comique, Il y a le sens, il y a le ton de ça.
Alors racontez-nous qui est votre personnage principal, racontez-nous sa vie, son existence, et ce qu'elle cherche, son ambition au fond. Qui est-elle?
Delia est une femme qui n'a pas d'ambition, qui est une épouse, qui est une mère, et ses rôles la définissent. Donc elle pense... Elle pense qu'elle recouvre ses rôles et donc elle vaut ce que ses rôles recouvrent. Elle est la servante du père qui est pas aussi le maître. Il y a ce rapport de violence masculine par rapport à la dame était une chose qui était une normalité parce que les femmes s'occupaient de la maison, le mari commandait, il administrait l'argent, etc. Et de fait, elle sert aussi de servante à son beau-père, qui est un personnage particulier. Et elle fait la mère, elle fait grandir ses enfants, et elle a comme seul objectif. Elle accepte la vie qui lui est arrivée, qui lui est échue.
Et quindi subisce anche la violenza.
Son mari est violent, donc elle subit la violence de son mari comme ça arrivait. Parfois à l'époque, sous les yeux de tout le monde, sans que personne ne fasse un scandale. Mais elle n'a pas de conscience particulière, elle n'a pas une grande conscience. Le seul désir qu'elle a, c'est un bon mariage pour sa fille, Marcelle, qui est un bon fiancé, qui a une condition sociale un peu plus aisée que la leur. Et c'est la seule chose, finalement, qu'elle aspire. Et à un moment qu'elle se comprend, elle reçoit une lettre qui changera complètement son destin. Qu'elle fera en sorte qu'elle change son destin. Et aussi celui de sa fille.
Ce qu'il faut aussi préciser, la singularité de son existence, c'est peut-être qu'au sein de sa famille, à travers la figure de son beau-père, à travers la figure de son mari, à travers la figure de ses deux fils, c'est qu'elle est entourée de crétins finis, il faut quand même le dire. Pourquoi, j'allais dire, dépeindre ces hommes, c'est les hommes qui appartiennent à sa famille, de cette façon-là?
Ho capito bene, no? Che sono
dei cretini.
Dei cretini, sì.
Totali.
Ma perché a me interessava...
Parce que ce qui m'intéressait, c'était de représenter ces hommes qui sont les méchants de cette histoire.
Come degli idioti.
Comme des idiots, des crétins, comme tu disais bien.
Perché spesso i cretini
Parce que souvent, les méchants sont souvent très fascinants.
Il villain.
On aime bien le gangster, le méchant. Et il est très fascinant pour celui qui les regarde souvent. Et en revanche, j'avais vraiment envie que ces deux-là fassent peur. Ivan, far paura, il fait peur, duro, il est dur, il représente un danger, une dureté, la violence, mais en même temps qu'il soit complètement idiot, parce qu'il n'y a pas de risque d'émulation de la part de quelqu'un. Tout le monde veut être un gangster aussi, mais personne n'a envie d'être un crétin.
Donc ça,
voilà, on enlève un risque pour une bonne partie des gens maintenant. Et je voulais que le ton de ce film aussi ait quelque chose d'une possibilité de parler de comment ces histoires ont été racontées. Les histoires de cette époque m'ont été racontées avec un ton un peu désenchanté. Ce sont des choses qui arrivaient. C'est pas une histoire biographique, hein, mais mes grand-mères, mes arrière-grand-mères racontaient ces histoires-là sans crier au scandale, mais c'était comme ça, c'était des choses qui arrivaient. Et celle-ci arrivait à celle-ci, elle avait ce genre de vie, et voilà, normalisation de choses terribles. Et donc, ces deux hommes sont représentés comme des idiots parce que les ridiculiser, ridiculiser ce qui nous fait peur, le rend évidemment moins épouvantable.
Cette histoire, votre histoire, Paola Cortellesi, vous la situez juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, les Américains sont encore présents en Italie, à Rome. Pourquoi situer votre histoire à ce moment-là, juste après la guerre?
Parce que c'est une période historique très importante pour ce pays. Parce que dans cette année-là, les femmes ont obtenu un droit fondamental, un droit que notre Delia va exercer à la fin du film. Donc je voulais raconter pas seulement cette année-là, mais vraiment cette journée spécifique-là.
On a parlé depuis le début de notre échange, de notre discussion, de violence, de machisme. On a parlé d'une misogynie absolument terrifiante qui fait mal, qui frappe le corps des femmes. Dans le même temps, il faut dire que ce n'est pas un film affligeant, c'est aussi un film drôle. Cette violence, vous ne la montrez pas d'une façon crue, vous utilisez les codes de la comédie. Très souvent d'ailleurs, quand cette femme se fait frapper par son mari, ils se mettent soudainement à danser. Pourquoi utiliser justement ces codes-là? Pourquoi ne pas montrer la violence d'une manière absolument crue et directe?
Il y a plusieurs raisons à ça. La scène de la violence, on l'attend, cette violence, on l'a déjà promise. Je voulais la représenter comme un rituel, comme quelque chose qui se répète. Pas la conséquence directe de quelque chose, d'un moment précis, d'une scène précise. Je voulais la représenter comme quelque chose qui arrive toujours, qui accepte, qui recommence. C'est une danse. J'ai écouté en plus la version de cette chanson, Personne, qui est une chanson très célèbre en Italie, qui a été rechantée par Pietro Magoni, qui en fait une interprétation incroyablement dramatique. Une chanson qui est une chanson d'amour, qui promet de l'amour. Nous resterons ensemble pour l'éternité. Et j'ai pensé que cette promesse d'amour, de rester ensemble pour l'éternité, que rien ne peut nous séparer avec cet homme qui est... Ça ressemble à une prison à vie. C'est une version dramatique de cette chanson d'amour. Dans cette danse, il y a quelque chose qui se répète, ce rituel, qu'il y a aussi le désir de ne pas trop insister sur les détails sordide, on les connaît déjà, ces détails. Donc, c'était proposé déjà d'une mille manières. Voir ce qui est dur, un coup sur le visage, avec cette curiosité un peu morbide nous avons tous. Regarder l'accident dans la rue, c'est une curiosité naturelle. Que ça nous enlève la force du cœur de ce qui est en train de se passer, de la gravité de ce qui est en train de se passer.
Vous utilisez ces codes humoristiques s'agissant de la violence, vous faites la même chose avec l'amour. Il y a une scène d'amour notamment où les deux personnages principaux mangent des carrés de chocolat et au moment de s'embrasser, ils sourient l'un et l'autre et leurs dents sont pleines de chocolat. Pourquoi utiliser aussi ces codes-ci pour les scènes amoureuses?
Parce que je voulais faire une scène qui représentait bien l'amour, qui n'est jamais un amour platonique, qui est le plus fort de tous. C'est la mort un brave homme, l'amour le plus fort pour elle, un homme doux, respectueux, qui n'a rien à voir avec celui qu'elle a à la maison, qui est horrible. Et quand on écrivait cette scène, j'ai pensé que cette scène d'amour était un peu trop d'amour, parce que mon sens du ridicule ne me permet pas d'aller vers le romantisme. J'ai voulu un petit peu que ça soit drôle, que ça les fasse rendre ridicules. Parce que ça aussi est une scène d'amour, et il y a quelque chose aussi de ridicule, et qu'ils acceptent, ils s'aiment comme ça. Et l'amour est ce qui nous permet d'exprimer des choses, le romantisme exagéré, non, je ne pouvais pas.
Ce qui est intéressant dans ce film, c'est évidemment ce qu'il montre, ce qu'il raconte. Ce qui est passionnant aussi, c'est sa réception sociale en Italie, son succès absolument phénoménal. Je voudrais vous citer une cinéaste italienne qui s'exprime dans un magazine français, L'Express. Son nom, c'est Nadia Pizzuti. Et elle dit « Nous avons eu 20 ans de fascisme, 30 ans de démocratie chrétienne, 20 ans de Berlusconi. Est-ce que c'est pour ça que le patriarcat est encore si présent, si fort en France ? Et est-ce que c'est à cause de ce patriarcat encore si puissant que votre film trouve une telle résonance dans la société italienne ?
Abbiamo tante, non so a chi, come dire, a chi attribuire.
Je ne sais pas qui attribuer la résistance de la mentalité patriarcale. C'est un fait qu'elle résiste bien. Bien sûr, disons que la culture, un certain type de culture, et un certain type de culture populaire, du spectacle populaire, qui souvent avilit la figure de la femme, a contribué à cette résistance, de cette mentalité. Mais elle fonde, les racines sont millénaires. Je voulais partir d'un moment où ce type de comportement c'était le standard. Voilà. On va le dire comme ça, personne ne se scandalisait. C'était dans les mentalités. De là, il y a plein de mille changements qui ont été faits, mais nous avons acquis tous les droits, enfin, beaucoup de droits. Et c'est aussi vrai que ces droits ne sont pas appliqués, pas tous. Une loi est possible, améliorer une loi c'est possible, changer une mentalité passe par un travail de génération en génération. Et il faut encore beaucoup de temps.
Je voudrais citer un autre journal et une autre personne, il s'appelle Alan Caval et il signe un article dans Le Monde. Il raconte cette histoire à propos de votre film. Dans tout le pays, Il reste encore demain devient un objet d'intérêt public et les enseignants emmènent leur classe le voir au cinéma, comme à Barry dans les Pouilles, où la municipalité y a envoyé les élèves des collèges et des lycées. À Lodi, en Lombardie, un entrepreneur anonyme a acheté 400 billets qu'il réserve aux jeunes de la ville. Véro. Fin de citation. Comment est-ce que vous expliquez, au fond, la façon dont les Italiens se saisissent de ce film, de votre film? Est-ce qu'ils s'en servent aussi comme un message politique à travers la société italienne tout entière?
Parce que les théories, aussi justes, quelquefois sont exprimées par les textes, avec des rencontres. Tout ça est juste. Mais les histoires ont une force différente. Cette histoire,
et
je ne sais pas comment ça a été possible. Hein. J'ai une force. Elle a eu une force incroyable, évidemment. Cette histoire, les gens l'attendaient, en fait. Les Italiens étaient prêts, ils attendaient une histoire qui pouvait incarner leur mécontentement, le désir de parler de cet argument. Je ne parle pas seulement de femmes. Parce que 45% des spectateurs de ce film sont des hommes. C'est une histoire qui a... où chacun a pris un petit bout. C'est pas une histoire de violence, c'est très grave. Il y a ça, bien sûr, mais Il y a des histoires des parents, des grands-parents, du passé, etc. Mais il y a aussi le langage. Il y a aussi le langage d'une spectatrice de 20 ans qu'elle a prise dans cette histoire, qu'elle n'a rien à voir avec... Chacun raconte ce qu'il a envie, en fait, dans cette histoire. Chacun a pris un bout de cette histoire. C'est la force des histoires. Je n'ai pas une formule, je ne l'avais pas avant, je n'aurais pas pensé d'avoir un succès comme ça, aussi vaste dans mon pays. Et donc, la seule explication, c'est que, bien sûr, je voulais parler de ce parlement, je voulais le faire exactement comme je l'ai fait, mais probablement, j'avais un public italien qui n'attendait pas autre chose, tout simplement.
Est-ce que le milieu du cinéma italien se regarde lui-même, évalue lui-même la façon dont il a agi, dont il s'est structuré pendant des décennies ? Pour le dire d'une autre façon, est-ce que le cinéma italien connaît son Me Too aussi ?
Le Me Too est, comme nous l'avons vécu,
a été très lié, quand elle est sortie des États-Unis, elle a été très liée à quelque chose du milieu sur les violences sur le lieu du travail, surtout dans le travail, dans le spectacle, un peu à part. C'est vrai que ça a beaucoup de choses qui ont à voir avec une mentalité de violence, d'autorité qui a à voir avec tout le reste. Mais ça a été un peu fermé finalement dans la boîte du monde du spectacle. Cette histoire a touché, je crois, parce que, plus que de le définir comme quelque chose qui a rapport avec MeToo, parce que ce que compte en Italie, ce qui fait souffrir, c'est le compte des féminicides. C'est ça qui est en train de toucher les consciences des Italiens.
De plus. Bien sûr,
c'est le même discours qui passe de par un biais ou un autre, mais nous l'avons divisé, parce que ce sujet-là, qui est la violence des femmes, qui touche énormément les Italiens, et aussi celle extrême qui finissent par un assassinat, ce n'est pas immédiatement aux violences faites dans le travail, dans le milieu du spectacle. Je ne sais pas pourquoi ça a été divisé, ces choses-là. Ce qui les rend sensibles, c'est le décompte des victimes. Une femme, toutes les 72 heures dans notre pays, meurt, tuée par un ex-compagnon, un ex-mari, quelqu'un qui n'a pas accepté un refus.
Il reste encore demain, merci beaucoup Paola Cortellesi. Et un rappel, vendredi prochain, 15 mars, les termes du débat européen présenté par Emmanuel Laurentin seront consacrés à l'Italie et aux violences conjugales. Il est 8h59.